SBS Radio.
Voilà, j'ai avec moi aujourd'hui en studio 5 membres éminents de la communauté RD congolaise en Australie, plus précisément basée à Sydney. Sans plus attendre, madame et messieurs, bienvenue sur les antennes de la radio SBS.
Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes à 2 jours de Noël et une des préoccupations les plus graves pour la communauté congolaise, on l'a vu sur les réseaux sociaux, partout sur Internet, c'est la crise des élections au Congo qui auraient dû avoir lieu ce samedi 23 décembre et qui ont été reportées sine die.
C'est dimanche.
Le 23, c'est ce dimanche. Oui. C'est ce dimanche 23 décembre. Je suis encore en décalage horaire. Je raisonne dans un autre fuseau horaire. Mais avant de commencer, d'abord, présentons d'abord les protagonistes. On commence à ma gauche.
Moi, je m'appelle Félicien Mouy. Je suis le conseiller ici dans notre comité congolais ici en Australie, précisément à Sydney. Et je suis aussi le fondateur de la génération sociale RDC, qui fait partie de la société civile. Merci.
Merci, congolaise. Madame.
Moi, je suis Pauline Bopenda. Je suis enseignante de formation. J'assume la responsabilité des vice-présidentes à la communauté congolaise.
Moi, c'est Rifin Chamala. Je suis un membre actif dans la communauté congolaise. Ex-vice-président de la communauté congolaise de Western Australia. Et ici, je représente un parti politique, donc le mouvement de libération du Congo. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas parler de nos couleurs politiques. Je suis avec... Donc je vais me présenter comme le porte-parole de toute la communauté congolaise qui est préoccupée par ces événements.
Les événements qui se déroulent au pays.
Okay. Moi, c'est Isaac Kissimba. Je suis l'ancien trésorier de la communauté congolaise ici à Sydney. Je vais travailler avec mon collègue ici à côté. Et je suis aussi le fondateur aussi de Ubuja, une petite communauté de Congolais ici à Sydney. Et je suis aussi, je travaille à l'université et aussi au niveau des comités.
Quelle université vous avez dit?
L'université, c'est Western Sydney.
Ouais. Mon nom, c'est Vangu Kitoko. Et professionnellement, je suis biomedical engineering. Researcher. Bon, je vais mélanger un peu avec l'anglais, ça ici, ça vient.
C'est pas grave, notre programme est en français, mais on parle plus.
Donc, je fais des recherches en biomedical engineering.
Oui.
Et puis, je suis l'ancien président de la communauté congolaise de New South Wales depuis 2006 jusqu'à 2010.
Jusqu'à 2010, et maintenant,
donc, ça, c'est tout à fait normal que je sois intéressé avec
ce qui se passe. Ouais. Et si vous dites que le français est mélangé avec l'anglais, sachez que notre programme s'adresse à un public francophone, mais la plupart des francophones d'Australie ont perdu l'usage du français et on parle plutôt le franglais. Donc, n'hésitez pas, si un mot ne vient pas automatiquement, donc ne glisse pas automatiquement sur le bout de votre langue, dites-le en anglais. Sans plus attendre, on se lance dans le sujet. Report des élections en République démocratique du Congo. Donc, ça devrait avoir lieu ce 23. Et ce n'est pas la première fois que ces élections sont reportées. Elles devaient avoir lieu il y a plus d'une année. Elles ont été annoncées pour le 16 décembre. Report au 23. Et maintenant, report d'une semaine supplémentaire. Mais entre-temps, la tension monte. Moi, je suis ça sur les réseaux sociaux, des photos qui circulent. On voit des manifestations, des événements un peu partout à travers le pays. Donc, ça bouillonne. Eh bien, qui se lance pour nous parler de cette situation?
Ce n'est pas la toute première fois que ces élections ont été reportées. Ça devient comme une habitude au niveau des Congolais et ses dirigeants et ses politiciens. Mais je crois que, pour commencer, c'est un mauvais départ dès le commencement. Depuis 2016, le mandat de Joseph Kabila était déjà fini et on est resté dans un non-état. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pouvait représenter la République démocratique du Congo de par le monde entier. C'est-à-dire que tout était illégal. Si on parle de non-État, c'est-à-dire que tout est désordre. C'est-à-dire qu'à n'importe quand, Kabila pouvait prendre la décision seul. Par contre, il y a ce qu'on appelle la CENI, qui est là, qui est tout à fait indépendant, mais on observe que cela est dirigé par le pouvoir en place. Alors, moi, je crois que quand quelque chose est parti très mal, c'est difficile à contrôler. C'est comme la relation cause à effet. La cause, c'est que le mandat de Kabila est déjà fini, et les effets, c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Moi, je pense que nos hommes politiques doivent réfléchir pour prendre une décision ferme sur cette situation aujourd'hui.
Mais quand on regarde la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le problème qui se pose, ce sont des problèmes, disons, d'après ce que moi je lis d'ici, donc d'après ce qu'on nous raconte, c'est que ce serait des problèmes, surtout concernant ces machines électorales. C'est quand même une élection qui va se dérouler dans une situation inédite, dans la mesure où ce seront des votes électroniques, donc ça représente quand même un aspect logistique de taille, parce qu'il faut déployer ce matériel à travers le pays et s'assurer qu'il fonctionne et qu'il n'y aura pas de tricherie, parce qu'on parle déjà de tricherie dans ces élections.
C'est d'ailleurs là où il y a la genèse de toute histoire, parce que la loi électorale est claire sur ce point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas faire recours à l'utilisation de machines électroniques pour voter. C'est-à-dire que notre loi ne permet pas. Mais le problème à savoir, pourquoi est-ce que la commission électorale indépendante insiste tant à ce que nous puissions utiliser ces machines à voter, qui est d'ailleurs rejetée par la majorité de la population. Et il y a M. Martin Fayulu, l'un des candidats à ces élections présidentielles, qui était très vocal sur ce point. Il avait dit que s'il y a l'usage de ces machines, nous n'allons pas partir aux élections. Bon, pourquoi imposer à la population, pourquoi imposer aux acteurs politiques quelque chose qui n'est pas légal? C'est là où il y a l'origine de tout. Donc, au départ, on ne peut pas acclamer ce que la commission électorale indépendante est en train de faire. Il fallait obtempérer, il fallait accepter, écouter ce que la population a demandé, écarter définitivement ces machines. Nous sommes habitués à faire les élections normales avec les papiers, les ballots, si je peux le dire en anglais. Ça allait être mieux, mais déjà vouloir imposer quelque chose qui n'est pas légal, c'est là où l'origine de tout.
Oui, les machines donc sont à l'origine de ce problème. Je crois que Vangu a un autre point de vue là-dessus.
Oui, moi, mon point de vue est que les problèmes se trouvent dans nos politiciens. Il fallait que les élections se passent en 2016. Kabila est venu, il a fait ses manœuvres et les politiciens, les opposants, ils ont accepté avec les accords de Saint-Sylvestre et tout ça. Quand ils voient de 2016 jusqu'à 2018, il y a eu manipulation de nos politiciens. Le fait d'accepter ces manipulations, quand Corneille Nangaa est venu avec la machine, moi j'étais un observateur. J'observais qu'est-ce que les politiciens ils vont faire. Tous ils sont venus, même ceux de l'Oudeli de PES ou de l'Amoka aujourd'hui, ils sont venus avec le même argument. Avec la machine, il n'y aura pas les élections au Congo. Et comme mon ami a dit, c'est Martin Fayulu qui a martelé la chose. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes là, on peut voir que tous les politiciens, ils ont accepté la machine à voter. Ils ont accepté, ils continuent à accepter la manipulation de Kabila. C'est ça le grand problème. Fraude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Quand une fois vous acceptez la fraude, ça continue. Maintenant, comme vous avez demandé, le problème c'est la machine à voter. C'était la machine à voter, mais ce n'est plus la machine à voter parce que tout le monde a accepté la machine à voter. Le problème maintenant, est-ce que les élections auront lieu les 30? Ça, c'est mon point de vue. Ce que je peux maintenant donner comme commentaire ou quoi, si on peut voir si les élections auront eu lieu les 30. Parce qu'avec une machine à voter, c'est passé déjà. Kabila a... Il est toujours le maître du jeu. Il continue à être le maître du jeu.
Donc, les machines à voter, monsieur Kissimba, vous avez...
D'après moi, je voudrais parler d'abord sur l'histoire de notre pays. Parce que ça vient de l'histoire. Ça fait maintenant 58 ans depuis qu'on a eu l'indépendance. Oui. Et si vous regardez sur l'histoire du Congo... À partir du président Kassavubu, le président Mobutu est devenu président par un coup d'État depuis 1965. Ouais. Bon, il a régné pendant 37 ans. Et si vous vous rappelez bien de l'histoire, à partir de 1990, là où il devrait tenir les élections, il a manipulé la constitution et les autres et a traîné ça pour plus encore de 7 ans. Jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est venu encore, il a accédé aussi au pouvoir pas sur la voie démocratique. Et après lui, il a été aussi assassiné. Vous voyez, son fils est aussi venu. Je ne veux pas entrer en détail s'il est le fils ou pas. Il est venu aussi accéder au pouvoir sans une voie aussi démocratique. Le Congo a eu les élections multipartites. C'était en 2006. C'est la première fois que le Congo avait fait les élections. Et après ça, il y a eu encore les élections en 2011, dont nous avons des disputes là-dessus à propos des résultats, comment est-ce que c'était publié. Vous connaissez bien l'histoire. Et ce que la population avait compté comme gagnant, c'était Étienne Tshisekedi et la manipulation. C'est-à-dire, l'histoire continue à se manifester au Congo. C'est ainsi que vous voyez le pouvoir actuel, qui avait, leur mandat avait déjà terminé en 2016, continue avec cette stratégie de manipulation. La machine à voter, c'est une stratégie qu'ils ont utilisée, qui est déjà manipulée, dont on n'est même pas sûr comment est-ce que les résultats seront obtenus. Parce que c'est une machine dont un pays pauvre comme le Congo qui utilise des machines à voter. Mais si vous comparez le Congo à l'Australie, un pays développé comme l'Australie, on n'utilise pas de machines à voter.
Non.
Vous pouvez voir comme si c'est une stratégie de manipulation pour les résultats.
Et c'est une stratégie, c'est une façon de dire, une façon de voir. Et vous, Pauline Bopenda?
Moi, je les ai tous entendus. Hein, et pour moi, je peux répondre à M. Vangu Kitoko pour dire que du côté de la Mouka, ils n'ont pas totalement accepté la machine à voter, mais ils ont dit qu'ils vont aller à l'élection puisque c'est le jeu de Kabila pour arrêter qu'on ne puisse pas avoir... comment dire,
des élections.
Mais on va aller jusque là où il veut nous amener, donc c'est ça.
Oui, oui. Vous avez parlé donc de cette machine. C'est une machine qui est présentée dans un contexte historique donné, donc un contexte comme si je peux faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Bon, certains, comme à ma droite, vous pensez que c'est une stratégie en fait pour essayer de gagner du temps. Donc, ça s'inscrit dans une logique, en fait, donc de manipulation. Et vous avez évoqué l'histoire, et j'aimerais revenir sur l'aspect historique, parce que ce qui est sorti de cela, c'est que le Congo n'a pas connu d'alternance au pouvoir d'une manière pacifique pendant ses 58 ans d'indépendance. Et on a évoqué des élections qui sont passées dans des conditions plus ou moins démocratiques, 2006 et 2011, des élections contestées. Et ce qui revient pour en avant quand même pour la plupart d'entre nous Africains, c'est que depuis ces 58 ans d'indépendance du Congo, il y a un aspect, il y a the elephant in the room, la communauté internationale et son rôle dans la politique congolaise. Les transitions, Mobutu n'est pas venu au pouvoir d'une façon pacifique, il est venu au pouvoir après des troubles, on se souvient donc de la transition Kassavubu, Lumumba, Mobutu, les troubles impliquant des anciennes puissances coloniales et les anciennes, les nouvelles puissances donc, du monde, à l'époque, Union soviétique, URSS et Ouest-Est, ce conflit-là. Et puis plus récemment, arrivée de Kabila au pouvoir, par le biais d'une révolte armée appuyée par des pays voisins. On entend sur les réseaux sociaux qu'il y aurait de nouveau une implication des pays voisins dans les régions, surtout frontalières du Congo, au niveau de la région de Goma. Il y a des troubles à Beni, à Goma. Il y aurait même une nouvelle implication des troupes rwandaises qui étaient intervenues déjà en 1996 et qui étaient à l'origine donc de l'arrivée au pouvoir de Kabila père. Je m'adresserai à vous, évoluer dans les milieux politiques,
oui,
où ces histoires, cet aspect aura été discuté, je l'espère, de façon plus approfondie, mieux que ce que je viens de présenter d'ailleurs.
Ce que vous avez présenté, c'est exactement ce qui se passe. Donc, la communauté internationale dans l'ensemble n'a pas vraiment aidé les Congos dans cette crise. Et ce n'est pas seulement la communauté internationale dans l'aspect des pays qui sont coloniales, les pays coloniales traditionnels tels que nous les connaissons. Et ces pays utilisent le pays proxy à côté, dans la sous-région des Grands Lacs. Vous avez cité le Rwanda. Ce n'est pas nous qui accuse le Rwanda. Le United Nations a plusieurs fois diligenté des enquêtes et qui ont démontré après multiples rapports que le Rwanda était impliqué. La question à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour condamner l'implication de ces pays voisins dans la crise congolaise. Il y a plusieurs fois, on a arrêté des militaires avec des tenues venant du Rwanda. Il y a les ADF Nalu qui sont de l'Ouganda, qui continuent à opérer dans notre territoire. C'est-à-dire que quand mon ami disait que le Congo est presque inexistant, l'armée, le pouvoir est à une faiblesse, nous, en tant que Congolais, nous observons cette façon d'agir du pouvoir en place. C'est comme s'il y a connivence avec ce pays à côté.
On continue donc sur votre intervention, sur le rôle des pays voisins, parce qu'on parle des élections. Si les élections se déroulent alors qu'une partie du territoire, il y a des troubles, même si vous amenez des machines, est-ce que les gens vont pouvoir aller voter quand les coups de feu sont en train de partir à gauche et à droite, machines électroniques, conflits, bon, on vous coupe l'électricité, ces machines ne marchent pas, comment est-ce qu'on va valider des résultats dans des conditions pareilles?
C'est ça, c'est parce que l'un des leaders des partis de l'opposition, M. Jean-Pierre Bemba, dans une interview que j'ai suivie, il a parlé de la parodie des élections. Donc, je ne sais pas, nous parlons des élections parce que nous sommes optimistes, parce que c'est ce que nous souhaitons. Les gens sont tellement fatigués de tout ce qui se passe au Congo. Mais normalement, en voyant les choses en profondeur, nous voyons que tous ces arrangements sont une parodie et pour normalement remettre les gens qui nous ont assujettis pendant longtemps à revenir au pouvoir. Vous avez vu les comportements des pouvoirs en place, des ramenés, M. Emmanuel Ramazani Shadary, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs, en ce moment où nous parlons, il est sous les coups de poursuites judiciaires et aussi il est sous les sanctions de l'Union européenne. Il est connecté à plusieurs massacres et aussi les massacres des représentants, disons des experts des UN,
des Nations Unies, de la MONUSCO
qui ont été assassinés au Kasaï. Tous ces scénarios démontrent que ces élections sont une parodie. C'est pourquoi il est facile pour eux de nous amener la machine à voter. Alors, s'il faut rebondir un peu par rapport à l'action des pays environnants, actuellement, M. Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, est le président de l'Union africaine. Et je pense que si le Rwanda voulait, et l'Ouganda, s'ils voulaient réellement aider le Congo à sortir de cette crise, ils allaient le faire depuis longtemps, parce que c'est seulement aux côtés de l'Est, c'est là où il y a insurrection. Il y a toujours des groupes armés et ces groupes armés ne sont pas des Congolais. Ils viennent à Beni, ils coupent les têtes des femmes, ils éventrent les femmes.
Et ils violent,
ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais la communauté internationale, je parle de la MONUSCO qui est là, on parle de la grande mission des Nations Unies en Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi nous n'avons pas vu des preuves tangibles pour faire voir qu'ils sont réellement là pour aider les Congolais? Donc c'est-à-dire qu'ils sont... On ne peut pas leur demander la solution parce qu'ils sont eux-mêmes l'origine de cette crise que nous bon, là ici je parle vraiment comme porte-parole de toute la population congolaise qui est meurtrie, qui est fatiguée de tout ce qui se passe. Quand nous parlons de sélection, c'est parce que on n'a pas de choix. On est fatigué, le peuple est fatigué. On voudra c'est que ce monsieur parte avec tout son gouvernement, son armée. Depuis 18 ans, ce gouvernement est sur place. Nous avons vu que des tragédies, des souffrances et tout ce que nous avons vu ne donne pas l'espoir qu'on peut encore voter quelqu'un comme ça pour la continuité. Le monsieur qu'on a mis en place pour être le dauphin de Kabila s'appelle le candidat de la continuité.
Mais comment, quel est son nom? Parce que
c'est Emmanuel Ramazani Shadary. C'était l'ancien ministre de l'Intérieur de M. Kabila. Et il a toujours été l'homme de main du pouvoir. Donc, il y a encore un autre nom qu'on appelle coup sur coup. C'est-à-dire que lui... Il n'hésite pas.
Non, mais ce que j'aime bien au Congo, on a l'habitude de sortir des termes qui sont vraiment. Et qui font histoire, qu'on dirait voilà, dans l'histoire.
Et voilà, lui, il est fier de ça, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans les interviews dire que je suis monsieur coup sur coup. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous faites ça. Ça, ce n'est pas un langage de quelqu'un qui peut diriger un pays qui est déjà martyrisé par des difficultés, des souffrances. Nous voulons quelqu'un qui peut ramener la paix. Ces élections n'offrent vraiment pas l'espoir que nous attendons. Et de part, si vous me le permettez, que je continue mon exposé, de part de l'histoire, s'il faut que je rebondisse un peu à ce que mon frère avait dit, nous n'avons jamais accédé à l'alternance du pouvoir depuis 1965. Même les élections de 2006, nous savons que c'était M. Jean-Pierre Bemba qui avait gagné. Ça, c'était...
Et c'est là que je vais intervenir avec cette histoire de la communauté internationale. Les gens sont jugés, sont condamnés ou ils sont accusés de ceci ou de cela, à gauche et à droite. On voit le rôle trouble du tribunal international, pénal international. Jean-Claude Bemba, qui avait été donné comme gagnant de ces élections, et tout d'un coup... poursuivi pour des crimes, arrêté en Belgique, je ne sais plus si c'était en Belgique ou au Portugal, je ne sais plus où il a été arrêté. Il a croupi pendant des années à La Haye, et puis tout d'un coup, blanchi, retour à...
Quand il y a eu l'élection en 2006, vous avez vu avec la popularité, personne ne pouvait gagner Jean-Pierre Bemba en 2006. C'est le même scénario qui s'est passé en 2011 avec Étienne Tshisekedi. C'est lui qui a gagné les élections. Il y avait même les observateurs internationaux, les centres Carter, avec tous les rapports qui ont démontré noir sur blanc que c'était Étienne Tshisekedi qui avait gagné, de même avec Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait après? Toutes ces poursuites judiciaires, les accusations, c'était juste pour l'écarter. Il a passé 10 ans en prison pour des crimes qu'on lui a amputés. Il était en Afrique du Sud quand on l'a accusé de faire partie du massacre qui s'est passé en Afrique
centrafricaine.
Après 10 ans, la cour dit que bon, il est acquitté. Mais comment va-t-il récupérer les 10 ans passés? Vous voyez, il y a une instrumentalisation à tous les niveaux. Et vraiment, nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas. Nous appelons vraiment les pays qui ont une bonne volonté, y compris l'Australie. Et pourquoi? Parce que nous vivons ici, nous sommes la diaspora de l'Australie. Parfois, on est aussi fatigué de la diaspora de l'Europe. Ils ont été là pendant longtemps. On ne voit rien à part les communiqués, des sanctions par-ci, par-là. Mais nous voulons voir des faits. Nous avons vu, ils ont arrêté certains gens. dans l'histoire, mais et qui doivent arrêter les gens qui tuent les gens. On connaît celui qui est l'auteur des crimes. On a commencé par le meurtre des activistes et des droits de l'homme avec monsieur...
Kamwana Sampo, tout ça.
Non, parlons un peu depuis 2007. Il y a le monsieur des... le nom m'échappe un peu. Mais avec les enquêtes qui ont été diligentées, on connaît qui était l'auteur. Mais tous ces gens-là sont là, ils travaillent. Quoi, la communauté Congo, la communauté internationale, ainsi que la justice internationale. Par profession, je travaille dans l'industrie judiciaire, je travaille à la Cour suprême de la justice ici. Je peux comprendre un peu des petites histoires là-dessus. Que quand il y a la vraie justice, on peut voir, mais quand il y a instrumentalisation, on peut voir. Et pourquoi tous ces organismes internationaux qui se sont élevés pour accuser Jean-Pierre Bemba à l'époque ne pouvaient pas aussi accuser les autres généraux? Et tout ça, c'est noir sur noir. Si on rentre par les crimes économiques, il y a eu récemment Panama Papers, qui a cité les noms de la famille présidentielle et de ses amis et de tout ça. Mais qu'est-ce que... Commençons par la justice de notre pays. Qu'est-ce que la justice fait? Rien, absolument rien. Ouais. Donc, on est vraiment abandonné. Nous demandons à tous les pays, y compris l'Australie, les gouvernements australiens, les gens qui veulent la paix du monde, qu'ils puissent vraiment soutenir les politiciens qui veulent les changements. Nous, le peuple congolais, nous sommes fatigués. Nous voulons les changements. Ce n'est pas pour rien que les gens se retrouvent en exil. Ce n'est pas pour rien que les gens se retrouvent en train de faire les asylum seekers, qui est d'ailleurs un grand problème ici, dans la politique australienne. Et au lieu d'attaquer les gens qui viennent faire la demande d'asile ici, il faut faire à ce que les pays... de là où ils sont, puissent avoir des gouvernements responsables, des acteurs politiques responsables, soutenir les vraies élections apaisées, transparentes et crédibles. C'est ce que nous attendons vraiment. Si réellement il y aura élection les 30, comme ils nous ont promis, que ces élections soient crédibles, soient transparentes et que celui qui gagne gouverne. Nous le savons.
Oui. Je peux faire un commentaire sur ce que mon ami a fait. En 1960, à la table ronde de Belgique, on a donné le Congo l'indépendance politique, pas l'indépendance économique. Parce qu'il y a eu deux tables rondes de 1960 que tout le monde a participé et ils ont eu l'indépendance politique. Ils ne savaient pas que économiquement, le Congo n'était pas indépendant. Ça même qui a causé la mort de Lumumba. Quand Lumumba est venu, il a essayé de graber le tout et puis contrôler l'économie et il a été éliminé. Donc, je ne veux pas aller avec ça, avec l'histoire du Congo, parce qu'on verra avec même Mobutu, il était dictateur. Quand il a essayé de contrôler la Gécamine, et il y a eu la lutte avec la Belgique et c'est même qui a causé la chute de Mobutu. Laurent Désiré Kabila est venu, c'était la même chose, on l'a utilisé avec les grandes puissances. Nous parlons de Rwanda, Burundi, et Uganda, South Africa, Angola, ça ce sont des proxys. Le vrai acteur, ce sont le Canada, les États-Unis, l'Australie même, et la Grande-Bretagne, et ce sont des acteurs principaux qui sont derrière.
Les multinationaux.
Les multinationaux. Ils ont leur armée, c'est la MONUSCO, pour surveiller leurs intérêts. Laurent Désiré Kabila a vu que non, je suis manipulé, il faut que je change de vue. Et il a été éliminé directement. On a placé Joseph Kabila. Tu vois, même avec Joseph Kabila, qui on peut dire qu'il n'a rien foutu. Mais juste à la dernière minute, quand il a posé, il a essayé de mettre les codes miniers. C'est ça qui fait même qu'on est en train de les chasser parmi les causes. De les chasser, de changer une autre marionnette. Alors, parlons des élections. Quand maintenant nous arrivons aux élections, tout le monde le sait, les Congolais ne veulent pas les élections. Les Congolais veulent l'indépendance totale du Congo. C'est-à-dire un leader qui arrive, qui est capable de contrôler le tout du Congo. Pas seulement la politique, mais aussi l'économie. Pour faire ça, pour les Congolais, il faut une manifestation générale, pas les élections. Parce que comme les amis ont dit, les élections ont commencé en 2006. Jean-Pierre Bemba a gagné, personne ne peut douter de ça. Mais il n'a pas eu le pouvoir, il avait même les armes, il a échoué. C'est ce qu'il dit, personne ne peut parler de sa popularité. C'est confirmé, il a échoué. Martin Fayulu aujourd'hui, personne ne peut dire que Martin Fayulu n'est pas populaire. Il est là, il est populaire. Mais tu vois, même les traitements durant la campagne, on voit déjà, il y a déjà des signes qui montrent. Ces signes-là d'aujourd'hui, ce sont les signes de 2011. Quand Tshisekedi est rentré de Kinshasa, on a tué 24 personnes et Kabila a échoué. Ngoï Moulunda dit ça que Tshisekedi a gagné 56%. Mais c'est Kabila qui est au pouvoir. Ce n'est pas impossible, demain les élections, et de voir que Ramazani Shadary qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'il faut quelqu'un, une marionnette pour contrôler. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir l'indépendance, ce que les Congolais veulent pour changer l'air ? Moi, je crois que je suis très content de voir la politique de M. Trump aujourd'hui. Les signes de la Syrie, par exemple. Il a retiré les militaires. Le ministre même de la Défense, qui est un conservateur de la politique américaine, a démissionné. Parce qu'il n'est pas d'accord. Ils veulent qu'il puisse continuer avec cette politique de garder des guerres, de continuité. Trump est clair. Il a dit, il est venu. Il n'y a pas une continuité de guerre. S'il y a un conflit, on termine le conflit, on passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore la guerre froide en Afrique. Il y a la présence de la Chine pour l'économie. Il y a la présence maintenant de la Russie au Soudan et la Chine au Sud-Soudan et la Chine presque partout. Donc si les Américains, ils ont intérêt maintenant de terminer le conflit et puis chercher à combattre la Chine et la Russie comme c'était durant la guerre froide. Si les Congolais peuvent utiliser cette stratégie américaine comme une opportunité pour résoudre aussi leurs conflits. Parce que ces conflits-là continuent. Ça a pris plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes puissances qui sont, ils ont leurs intérêts. Mais maintenant, avec Donald Trump, qui veut qu'on puisse terminer les conflits, et les Américains puissent tirer leurs intérêts, pas avec des conflits, parce qu'avec les conflits, la Chine en profite, et puis la Russie en profite. Nous avons vu ça avec Kabila. Quand on l'a poussé avec les Américains, il est parti en Russie pour acheter les tout. Pour moi, je veux dire que c'est à nos dirigeants, à nos leaders. Même les élections sont des élections que nous tous, nous savons que ça sera triqué au commun. Si il y aura l'opportunité, quelqu'un gagne de l'opposition, Martin Fayulu ou Félix, qu'il puisse par tous les moyens chercher à dialoguer avec les grandes puissances. Chercher par tous les moyens à trouver une solution win-win, comme la Corée du Sud a fait. La Corée est dominée par les Américains, c'est depuis 1945, mais avec des stratégies de win-win, nous voyons que la Corée est en train de se développer. Si on peut faire ça, je crois que ça va alléger le problème. Parce que le problème de Rwanda, de Burundi, non, ça c'est un faux problème. On a vu ça, je vais terminer pour dire que ça c'est un faux problème parce que on a vu ça avec les M23. Personne ne croyait que les M23, à l'écart de 2 jours, de 48 heures, on peut chasser les M23 out of Congo.
C'est l'Afrique du Sud.
C'est l'Afrique du Sud.
Et la Tanzanie.
C'est la Tanzanie, mais c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est l'instruction de Obama. Donc une fois nous travaillons ensemble avec Donald Trump, avec l'Amérique, il y a moyen de trouver, de terminer toutes ces guerres et de chercher comment ils vont gagner. Parce que nous ne sommes pas indépendants économiquement.
D'accord. Voilà, je retiens donc votre message. Ça revient à l'histoire, la ruée vers l'Afrique en 1885, plus la colonisation et la néocolonisation, parce que celle-là se poursuit sous forme d'exploitation économique. On y reviendra parce que le Congo, c'est un continent, un scandale géologique, un des pays les plus riches en termes de matières premières, en termes humains. plus de 50 millions d'habitants, l'un des plus grands pays francophones, sinon le plus grand aujourd'hui, et pourtant un pays où la misère se poursuit à travers donc, ce continent, qui est ce pays continent, un pays plus grand que la France, le Portugal, l'Espagne réunis, donc plus grand que l'Europe de l'Ouest. Venons-en à notre ami Félicien, je vois que vous voulez prendre la parole, mais on va essayer d'abréger parce qu'on a pris beaucoup trop de temps. Dites-nous très rapidement ce que vous avez
à... Merci mon frère Vangu et merci à tout le monde. Je crois que nous devons revenir dans le cœur de notre sujet aujourd'hui. On veut parler bien des élections, c'est vrai, mais quelque part, moi je crois que même dans un poulailler, il y a un coq qui supervise l'ordre. Je veux parler de selfish, de l'égoïsme. On ne peut pas aller à une solution si nos hommes politiques sont divisés. Même si aujourd'hui, vous dites par exemple que non, peut-être qu'un de ces deux leaders peut passer comme président, Fayoulou ou bien Félix Tshisekedi, mais je crois que c'est impossible. Ils doivent se mettre ensemble. Parce qu'on dit en français que le but d'ensemble garantit le but de l'individu. Mais le but de l'individu ne peut pas garantir le but d'ensemble. C'est exactement ce qui résume l'histoire que vous avez parlé, néocolonialisme, Mobutu, tout ça. Ils pensaient que leurs intérêts personnels pouvaient garantir l'intérêt de la nation. Ça, c'était une erreur. Quand la nation tombe et quand il tombe, tout est foutu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils voulaient soulever quelque chose là. Ce que le peuple congolais veut aujourd'hui, c'est mettre en pratique l'article 64. C'est-à-dire qu'ils doivent se mettre debout et les politiciens ensemble et le peuple se mettre sur les rues et commencer à revendiquer leurs droits. Parce qu'il n'y a pas une force qui peut dépasser la population ou le peuple. Mais ce qui est important d'abord, c'est l'unification, l'unité de nos hommes politiques. Même si on peut parler des multinationaux, mais je crois que partout, ils sont là, c'est le système de politique de chien, de doc. C'est-à-dire qu'ils doivent choisir quelqu'un qui peut diriger le pays. Mais cette personne-là doit être en harmonie avec les autres pour répondre aux besoins du peuple. Mais aujourd'hui, nos hommes politiques sont à 180 degrés opposés. C'est-à-dire que chacun veut ses intérêts. Alors comment est-ce que les Congolais peuvent sortir de cette impasse aujourd'hui? Moi, je crois que la première des choses, les hommes politiques doivent se mettre ensemble et prendre une décision responsable, et c'est à ce moment-là que nous pouvons même sortir, même à un pas de l'extérieur. Alors, ce que je voulais dire encore, c'est quoi? Moi, je pense que le leader politique, ce que je voulais dire, le leader politique, ne doivent pas penser à leur propre parti politique. Il faut qu'ils partent au-delà de leurs intérêts personnels. Le fait d'accepter aujourd'hui, tout le monde a accepté de pouvoir aller aux élections. Tous les leaders, ils ont accepté, ils ont dit, nous acceptons les 7 jours. Mais moi, je crois que les 7 jours, c'est une erreur, c'est une erreur monumentale. Alors je me dis, pendant les 7 jours, si le gouvernement peut déjà planifier, nous attaquer avant, je crois que l'article 64 n'aura plus d'effet. Parce que nous avons déjà vu, on a commencé à simplifier, à incendier le matériel électoral et le flux des militaires venant un peu partout dans le monde, je ne sais pas, pour entrer dans notre pays. Et nous attendons les 7 jours-là, ce qui n'a pas été fait en 2 ans, 3 ans. Croyez-vous que les 7 jours-là, ils vont faire quelque chose? Mais moi, j'ai peur, parce que quelque chose peut arriver pendant les 7 jours, mais je pense que les hommes politiques doivent prendre une décision ferme et qu'on pratique l'article 64, parce que si quelqu'un veut se mettre debout et prendre le pouvoir par la force, le peuple doit se mettre debout.
D'accord, voilà. Très, très rapidement, Isaac, je vais résumer. Donc, dernière question, dernière réponse, avant de clôturer, puisque nous devons remettre l'antenne à d'autres collègues dans d'autres langues aussi.
Oui, merci beaucoup pour me donner la parole. Ce que moi, je voulais tout simplement parler, c'est ce que vous avez dit, que nous, les Congolais, nous sommes les victimes. Des victimes, pourquoi? Parce que notre pays est trop riche en matières premières et ça nous fait des victimes. Je sais que le monde entier a les yeux sur le Congo. Toutes les grandes puissances ont les yeux sur le Congo. Et puis c'est vraiment regrettable parce que ce sont les Occidentaux qui décident qui va diriger le pays africain. C'est là où il y a le problème. Ce sont eux qui dirigent l'Afrique. Donc, ce que mon frère a dit, c'est à nous, le Congolais, de se libérer nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons avoir cette conscience congolaise, l'amour de la patrie, se sensibiliser, travailler ensemble. Ce que mon frère a dit, l'opposition doit être ensemble. L'opposition est déjà divisée. C'est donner la chance au pouvoir. S'ils sont divisés, ils sont affaiblis. C'est vraiment difficile de changer le régime. Donc, étant victime, la population a beaucoup souffert. Si vous allez au Congo, il y a une femme qui a été tuée, surtout à l'Est. La situation est vraiment grave. Et puis, tout ce rapport ne sont pas amenés dans les réseaux, dans le média international. Il y a les gens qui sont tués, mais tu ne peux pas voir ça dans les grandes chaînes comme en France, en Australie. On n'en parle pas. On trouve des images sur Internet, c'est-à-dire un cavade, c'est comme ça qu'ils disent, un cavade trousse, c'est-à-dire c'est fermé, même s'ils voient ce qui se passe sur les terrains, ils ignorent, parce que les grandes puissances sont là pour protéger leurs intérêts. Donc c'est à nous les Congolais de se réunir, l'opposition de venir encore ensemble s'il y a la chance, et de changer, sensibiliser la politique, le Congolais, parce que pour se développer, ce n'est pas seulement la politique, c'est la conscience aussi de la population. La population doit être développée sur un niveau pour être en mesure de comprendre et de changer les choses.
D'accord. Voilà, je vais conclure. Mais avant de conclure, on n'a pas beaucoup entendu notre sœur. Et donc, il y a quand même un aspect qui est revenu souvent donc parmi toutes vos interventions. Certains aspects sur lesquels donc, on semble être d'accord. Sur d'autres, on n'est pas tout à fait sur la même longueur. Mais on y reviendra à un autre moment, puisque aujourd'hui, le temps est vraiment limité. Mais on parle surtout donc une chose qui est revenue, c'était donc le rôle des puissances étrangères. Et vous venez d'évoquer la souffrance des femmes. Ça, c'est une chose à laquelle il faut revenir souvent, surtout en se rappelant que cette année, le prix Nobel de la paix, c'est un Congolais qui agit donc pour essayer d'alléger la souffrance de ces femmes qui sont victimes des viols, des toutes sortes d'exactions. Et c'est pour cela que j'aimerais que la parole de la fin, bien qu'on ait déjà, passé le temps limite, donner la parole à notre sœur pour parler de la situation et peut-être conclure ce débat aujourd'hui. Ce dialogue, cette conversation, pas un débat.
Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est la population congolaise d'essayer de prendre en charge. Voilà, et on est là et, au niveau des élections qui va peut-être pas se réaliser, on ne sait pas, mais la population doit se prendre en charge, aller manifester, s'il faut manifester, pour que les choses changent quand même dans notre pays. Il y a les femmes qui meurent du jour au jour, des enfants, et personne n'en parle, mais il y a human rights, the right of the child, évoqué chaque jour au niveau de l'éducation ici. Mais chez nous, il y a des enfants qui meurent, et personne n'en parle. Vraiment, c'est vraiment, comment dire, regrettable. Donc, nous, on continue à espérer que l'élection va se réaliser et puis les choses vont changer. Voilà, c'est un peu ça.
Ok, voilà. Donc, un petit tour de table. Félicien, Moï, Pauline Bopenda, Vangu Kitoko et Ruffin Tchamala. Et Isaac Kissimba, j'allais oublier le grand Isaac, et un ami de notre chaîne parce qu'il est apparu à plusieurs beaucoup de fois. Bien, merci infiniment d'être passé ici ce dimanche, un jour où vous auriez pu rester en famille, préparer les festivités de Noël et des fins d'année, mais vous êtes venu nous expliquer ce qui se passe au pays, au Congo, l'un des tout grands pays d'Afrique centrale, un pays qui nous est très cher, nous tous, voisins et amis et familles africaines. Merci infiniment.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.